Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré aux libertés publiques. À l'ordre du jour ce soir, épidémie, terrorisme, nos libertés sont-elles en danger? L'Assemblée nationale était réunie ce week-end pour prolonger l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février prochain, un texte qui sera examiné mercredi au Sénat avant de revenir en deuxième lecture à l'Assemblée. Une situation d'exception qui fait suite depuis 2015 à un état d'urgence qui était lui lié au risque terroriste et dont on a vu qu'il n'avait pas disparu et qui fait craindre aux spécialistes des libertés publiques que la France ne s'installe durablement dans un régime où les droits de manifester, les droits de se réunir ainsi que le droit d'association ne soient durablement entamés. Pour autant, la situation semble bien exceptionnelle, mais alors quel rôle pour la délibération législative, pour la justice administrative et pourquoi pas pour les citoyens eux-mêmes? Et ne sommes-nous pas nous-mêmes passés d'une certaine façon vers une servitude volontaire préférant la sécurité à la liberté? C'est ce dont nous allons débattre avec nos trois invités. Stéphanie Hennette-Vaucher, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de droit public à l'Université de Paris-Nanterre, directrice du Centre de recherche et d'études sur les droits fondamentaux. Vous avez dirigé un livre collectif en 2018 chez LGDJ qui s'appelle « Ce qui restera toujours de l'urgence ». François Saint-Bonnet est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir Emmanuel Laurentin.
Vous êtes en direct depuis les studios de Radio France Armorique, France Bleu Armorique. Vous êtes historien et juriste, professeur à l'université Panthéon Assas, Paris 2. Vous avez beaucoup écrit sur les droits et les libertés en période de crise. Vous êtes auteur notamment de l'état d'exception et de À l'épreuve du terrorisme, les pouvoirs de l'État. Et avec nous en studio à Paris, Peggy Havé, bonsoir.
Bonsoir Emmanuel Laurentin.
Vous êtes philosophe, vous êtes créatrice d'un podcast qui s'intitule Simone et les philosophes. Vous êtes membre associé au sein de l'UMR Savoir, Texte et Langage de Lille, et vous avez consacré votre thèse à l'idée de liberté et au mécanisme de servitude volontaire. Elle a été publiée en 2017 aux publications de la Sorbonne sous le titre de « L'envers de la liberté, une approche historique et dialectique ».
Le risque, sous l'effet de la colère, sous l'effet de la peur créée par des incidents particulièrement barbares, c'est de renoncer à cet état de droit. Le risque, c'est de renoncer à nos libertés par peur. Alors surtout quand les crises s'enchaînent les unes aux autres, s'enchevêtrent, je dirais même, parce que la pandémie nous amène déjà par un autre type de peur à renoncer à une partie de nos libertés. Donc il y a là un phénomène dangereux en lui-même pour la démocratie et pour l'état de droit. Il faut que l'état de droit résiste. Il résiste à ce que j'appelle quelquefois, je crois que c'était le mot qui avait été utilisé il y a quelques années dans un congrès des psychanalystes sur la norme, ce qu'on peut appeler la folie normative. Si à chaque événement, on répond par une norme, on est bientôt complètement envahi par cette folie normative qui ne résout pas et qui ne donne pas une boussole pour se diriger.
Vous l'avez peut-être écouté sur notre antenne, c'était dans la grande table mardi dernier sur France Culture, elle était l'invitée d'Olivia Gesbert, Mireille Delmas-Marty, juriste, professeure honoraire au Collège de France, qui évoquait justement après l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine, qui évoquait la question de la liberté. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit par Mireille Delmas-Marty, Stéphanie Hennette-Vaucher, c'est-à-dire ce risque que sous l'effet de la colère, de la peur, que nous renoncions volontairement ou non à nos libertés face en plus à une folie normative, comme elle le dit?
Oui, je crois que c'est effectivement ce qu'ont en commun tous les organisations de défense des droits de l'homme, juristes spécialisés sur la question des droits humains, ce qu'on voit depuis 5 ans. Avec l'enchaînement de l'état d'urgence 2015-2017, un certain nombre de crises sociales avec déjà beaucoup de questionnements autour des libertés, je pense en particulier au long épisode des Gilets jaunes, et aujourd'hui l'état d'urgence sanitaire, eh bien, ce qu'on voit, c'est la banalisation du recours par le gouvernement à des modes exceptionnels dans l'étendue des restrictions aux libertés qu'ils permettent, mode exceptionnel de gouvernement. Et je crois que le signe le plus clair de cette banalisation, c'est que l'allocution présidentielle le 14 octobre au soir parlait de, le président de la République parlait de couvre-feu. Il a même pas mentionné que le matin même en Conseil des ministres avait été décidé le réenclenchement de l'état d'urgence sanitaire. Mmh. Et je crois qu'il n'y a pas meilleur exemple, pas meilleure illustration du brouillage entre la norme et l'exception que ce moment où finalement on décide de rebasculer dans l'état d'urgence sanitaire, un régime spécifique, et la plus haute autorité de l'État ne prend pas même la peine de le mentionner.
François Saint-Bonnet, vous qui êtes justement spécialiste en tant qu'historien juriste de cette question de l'état d'exception, vous êtes peut-être sur une position légèrement différente de celle de Stéphanie Hennette-Vaucher, puisque vous pensez qu'il y a certains cas où la question de l'état d'exception peut être mise en œuvre et d'autres peut-être moins. On a là en l'occurrence, comme le disait Mireille Delmas-Marty, deux états d'exception qui se croisent d'une certaine façon. À nouveau le retour du terrorisme et les lois qui vont avec, et de l'autre côté, l'état sanitaire dans lequel nous nous trouvons, l'état d'exception sanitaire.
Je voudrais d'abord faire une distinction. Il se trouve que le mot urgence est extrêmement ambivalent, parce que d'un côté, il rassure un certain nombre de gens qui ont l'impression que parce que le mot d'urgence est employé, on agit, c'est-à-dire en réalité que l'urgence a une dimension performative. Il se substitue à l'action. Nous sommes dans un état d'urgence, donc nous agissons. En réalité, un état d'urgence, c'est simplement un système normatif différent, mais ça n'est pas une action en elle-même. Pour résoudre les crises, il faut des agents de l'État, il faut des policiers et des militaires quand il s'agit de la sécurité, il faut des médecins quand il s'agit de questions sanitaires. C'est aussi un mot qui inquiète, évidemment, parce que l'état d'urgence est consubstantiel à l'idée de suspension ou en tout cas d'atténuation des libertés. En tout cas, je crois qu'il faut faire une distinction très nette entre l'état d'urgence sanitaire et l'état d'urgence sécuritaire. Mmh. Dans l'état d'urgence sanitaire, il me semble que ce n'est pas véritablement l'État qui a la main, c'est pas vraiment l'État qui a la solution, mais pour l'essentiel, c'est la société. D'ailleurs, ceux qui sont le plus sollicités, ce ne sont pas les ministères régaliens, ministères de la Défense ou ministères de l'Intérieur, mais plutôt les citoyens eux-mêmes, auxquels on demande d'avoir des gestes de civilité prophylactique, et les ministères sociaux, c'est-à-dire ceux qui viennent en soutien pour... Et d'ailleurs, on dépense pas mal d'argent pour venir en soutien de cette société. Donc je crois qu'il faut essayer de ne pas distinguer. Trop confondre les deux choses. Mais il est vrai qu'il me semble que l'utilisation du mot urgence dans l'état d'urgence sanitaire n'était pas tellement bienvenue. Je pense qu'on aurait pu dire tout simplement état d'épidémie. C'est une chose que nous connaissons dans le longtemps de l'histoire. Mmh. Et c'est une chose qui est relativement prévisible, même si elle n'est pas constante.
D'ailleurs, dans le longtemps de l'histoire, vous avez travaillé, Peggy Havet, en tant que philosophe, sur ce longtemps de l'histoire. On peut dire que, effectivement, naisse ce couple entre sécurité et liberté, né, dites-vous, aux alentours du XVIIe, XVIIIe siècle, qui se développe. Alors évidemment, nous ne sommes pas sous un régime démocratique, ce qui change beaucoup, j'imagine, par rapport à ce que nous connaissons, mais les philosophes réfléchissent justement à ce couple, sachant comment conserver le maximum de liberté tout en étant protégé, en ayant le plus de sécurité. Est-ce que vous pensez que c'est encore ce couple qui est en jeu dans des crises telles que nous les connaissons aujourd'hui, Peggy Havet ?
Oui, et en même temps, c'est la confusion de ce couple, parce que lorsque, au XVIIIe siècle, on posait la sécurité comme une condition de la liberté, ou si je reprends la formule de Montesquieu, la liberté politique comme l'opinion que l'on a de sa sûreté, disait Montesquieu, où globalement, ce qui était thématisé, c'était la liberté comme jouissance tranquille, sécurisée, garantie par l'État de mon corps et de mes biens. Bon, ça, c'était la liberté politique, le paradigme qui a émergé à ce moment-là. Donc la sécurité en fait partie, mais cette sécurité, définie comme le fait d'être à l'abri de l'arbitraire. Mmh. Ce qui ne me paraît pas du tout être le cas aujourd'hui, quand on revendique une forme de sécurité pour justifier des mesures qui sont prises, et qui sont prises arbitrairement. C'est-à-dire, en fait, on est plutôt dans une culture de l'insécurité lorsqu'on prend des mesures arbitraires, qu'on annonce du jour au lendemain ou sans délibération. On crée autre chose que l'événement. C'est-à-dire là, il y a l'événement de l'épidémie, il y a des événements terroristes, mais lorsqu'on prend des mesures arbitraires, qu'on annonce de façon arbitraire, on crée un contexte qui dépasse ces événements historiques-là.
Mais on va vous répondre que ça n'est pas arbitraire dans le sens où ceux qui prennent ces décisions ont été élus par la majorité des Français, que donc ils sont les représentants de la France et des Français, que cela passe devant le Parlement et qu'au bout du compte, eh bien, il y a bien une décision qui est validée, en tout cas, par le principe démocratique des élections, en tous les cas.
Alors, des élections, oui, mais on essaye de montrer justement que ça suffit pas à l'élection. Que la démocratie passe par la possibilité qu'ont les citoyennes et les citoyens de délibérer ensemble, ce qui suppose des espaces, des temps, où l'on peut discuter non pas seulement des modalités de notre sécurité, mais surtout des modalités de nos libertés.
C'est d'ailleurs ce que disait Stéphanie Hennette Vaucher dans un article hier. Claire Hédon, qui est donc défenseur des droits depuis que Jacques Toubon a quitté ce poste, et qui disait en fait, par exemple, eh bien, il y a des décisions sanitaires qui sont prises par un conseil scientifique. On aimerait bien, disait-elle dans cet article, qu'il y ait... auprès du conseil scientifique, des spécialistes des libertés publiques, des psychiatres, puisque ces décisions qui sont prises pour des bonnes raisons sanitaires, visiblement, protéger les citoyens, mettent en cause justement ces questions de liberté publique. Et il n'y a pas que des scientifiques venant du milieu médical, de sciences dures ou de la sociologie, comme c'est le cas dans le conseil scientifique, qui puissent juger des effets sur la société de ces décisions.
Oui, je crois que cette intervention de Claire Hédon est extrêmement importante et on peut également citer celle de Jean-Marie Burguburu qui préside la Commission nationale consultative des droits de l'homme qui de la même manière
ce week-end
s'est ému
également
de ce que les institutions qui ont compétence pour alerter les pouvoirs publics et éclairer leur action au regard de la du paradigme des droits humains sont mises de côté dans l'ensemble des décisions qui sont prises en ce moment. Et de ce point de vue, je crois que la distinction que propose François Saint-Bonnet entre état d'urgence terroriste, si on peut dire, et état d'urgence sanitaire est très importante. Et je suis tout à fait d'accord sur l'idée que c'est pas vraiment l'État qui a la main sur ce qu'il convient de faire en matière sanitaire. Néanmoins, c'est lui qui, dans les deux cas, a un certain nombre d'outils à sa disposition. Et en l'occurrence, on voit aussi que dans les deux cas, il y a quand même des similitudes dans les problèmes qui se posent. La mise à l'écart des contre-pouvoirs, la mise à l'écart par exemple des institutions de droits humains comme on vient d'en parler, et puis le fait que les processus démocratiques sont un peu rudoyés, et je rebondis sur ce que disait Peggy Havet, c'est-à-dire que l'élection ne suffit pas, et à vrai dire, les parlementaires en période de crise et de gouvernement par le registre de l'exception, est singulièrement rudoyé. Il doit travailler très vite, il est largement dessaisi. Il y a beaucoup de législation par ordonnance, notamment à la faveur de l'état d'urgence sanitaire.
Et le juge administratif aussi.
Il y a toutes sortes de contre-pouvoirs qui sont essentiels. Voilà, c'est ça, il y a beaucoup de contre-pouvoirs essentiels qui fonctionnent d'une manière différente. Le contrôle juridictionnel, le cas du juge administratif est très intéressant, hein, depuis l'entrée en vigueur de l'état d'urgence sanitaire. Il y a beaucoup de voix qui convergent pour dire que le standard de contrôle qu'il a déployé est un peu accommodant de l'action publique et peu exigeant. Hein, il a pas beaucoup été exigeant sur la préservation des libertés. Il a donné beaucoup de poids à des promesses et des engagements du gouvernement. Et il a altéré ses standards de contrôle de légalité.
Mais est-ce qu'on pourrait trouver, François Saint-Bonnet, des gens qui disent aujourd'hui dans notre société, non, devant ces lois d'exception, nos libertés ne sont pas en danger. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, d'une certaine façon, il y a des bonnes décisions qui sont prises et qui, d'une certaine façon, permettraient justement de protéger les citoyens contre des dangers potentiels, qu'ils soient sanitaires ou qu'ils soient terroristes, et qui ne sont pas blâmables, d'une certaine façon, par le citoyen que nous sommes?
D'abord, juste un mot sur ce que disait Peggy Havet. Je partage ce point de vue et je vais le dire peut-être dans des termes un peu plus juridiques. Je vais dire en gros la même chose. En fait, on a affaire à deux insécurités. Une insécurité physique sur nos corps, des corps qui peuvent être blessés ou décapités par des terroristes ou des corps qui peuvent être atteints par la maladie. Et c'est quelque chose qui est, dans la modernité politique, source de très grande angoisse. Mais il y a une autre insécurité qui a été effectivement bien pointé à partir du 18e siècle, c'est qu'être en sécurité dans son corps, en étant insécurisé dans sa vie, parce qu'on manque de sécurité juridique, n'est pas moins insécurisant. Et donc, en fait, toute la question, c'est de savoir, non pas comment faire la balance entre liberté et sécurité, mais en réalité, c'est entre sécurité et sécurité, c'est-à-dire sécurité physique et sécurité juridique. Alors, pour répondre à votre question, peut-être un point. La question du recul des libertés ne peut pas être analysée sans l'efficacité des mesures. J'observe que, s'agissant de la lutte contre le terrorisme, l'état d'urgence a été extrêmement peu efficace parce qu'en réalité, c'est du contrôle de zone et c'est pas fait pour essayer de capturer des gens diffus et insaisissables. Le droit pénal de l'ennemi n'a pas fonctionné non plus parce que ce sont des gens qui n'ont pas peur de la mort. En revanche, il y a un moyen qui fonctionne même plutôt très bien, qui est tout aussi intrusif quant à nos vies, qui est la question du renseignement. On a pu apprendre que plus d'une trentaine d'attentats importants avaient été déjoués depuis 2017, ou une cinquantaine entre 2013 et 2018, si on en croit le journal Le Monde. Donc en fait, la question qui doit être posée, c'est une question qui doit être non pas fantasmée, qui doit être posée de manière rationnelle, mais quels sont les moyens adaptés aux fins que l'on vise. Et c'est en cela qu'on pourra commencer à réfléchir sérieusement sur la protection de nos libertés et celles que, éventuellement, de manière rationnelle et démocratique, on est en mesure de consentir à céder. Et c'est la raison pour laquelle aussi je partage ce qui a été dit sur le fait que, eh bien, tout ça appelle non pas de la peur, de l'angoisse, de la précipitation, mais un discours calme, rationnel, posé.
Et du temps, d'une certaine manière.
Bien sûr.
Dont on ne dispose pas, enfin, dont les dirigeants ne disposent pas volontiers ce temps, puisque, effectivement, ils travaillent dans l'urgence. Peggy avait.
Oui et non. Attendez, pardonnez-moi. Oui. Mais écoutez, on est dans l'épidémie depuis mars.
Ah oui, c'est vrai. Ça commence à faire.
On est sorti de l'état d'urgence. Il y a eu une loi au mois de juillet de sortie de l'état d'urgence, de l'état d'urgence sanitaire. Là, on va y re-rentrer. Tout ça mérite d'être discuté et d'être discuté dans le calme. Parce qu'une fois qu'on était sorti de l'état d'urgence, on était passé à autre chose, on avait tout oublié. Mais non, on savait qu'il y avait toujours cette épidémie.
Peggy avait, sur ces questions en particulier, qui ont brassé beaucoup les philosophes du 18e, je crois que c'est, vous citez quelque part Rousseau qui dit que si on est en prison, on est en sécurité. Et c'est cela que l'on souhaite parfois. Il y a cette dimension, il y a une dimension en tous les cas, de sécurité que l'on souhaite et que l'on est prêt à abandonner une partie de nos libertés. Certains, en tout cas, sont prêts à abandonner une partie de nos libertés. Est-ce que ça n'est pas aussi une donnée importante pour comprendre justement la façon dont on se comporte en société, cette servitude volontaire sur laquelle vous avez travaillé?
Ouais, alors justement, alors ce que Rousseau, quand Rousseau dit « on vit tranquille aussi dans les cachots, mais est-ce assez pour le souhaiter ?» Lui, il s'oppose justement à l'idée qu'on puisse se satisfaire d'un état de sécurité dans lequel on a sacrifié sa liberté. Donc pour lui, voilà, renoncer à sa liberté, c'est renoncer à son humanité. Donc ça peut pas justifier. Voilà, on ne peut pas sacrifier sa liberté au nom de la sécurité. On peut pas viser la sécurité pour elle-même. Donc Rousseau s'oppose à Hobbes, par exemple, sur ce genre de point. Maintenant, c'est vrai que dans le mécanisme de servitude volontaire, ce qui se passe et ce qui, à mon avis, est en jeu aussi aujourd'hui et qui est en arrière-fond de la citation qu'on a entendue de Mireille Delmas-Marty sur la folie normative, c'est que notre désir de liberté, dans un contexte qui est le nôtre et qui est clairement une rhétorique de la peur, de la menace, de l'urgence, de la crise, où on se rapporte au présent comme un présent constamment en crise, c'est ce que dit aussi Myriam Revaud-Allonne, à ce moment-là, le désir de liberté devient un besoin d'apaiser sa peur. Et c'est là où on peut souscrire à des formes de servitude volontaire, parce que on va chercher à apaiser sa peur pour s'en libérer. Et donc, on va se libérer d'une peur, mais en fait, ça va être extrêmement ponctuel, et on va pour cela accepter de sacrifier des libertés plus importantes, plus essentielles.
Vous écoutez le temps du débat, épidémie, terrorisme, nos libertés sont-elles en danger, en compagnie de Peggy Avec, on vient d'entendre, philosophe, François Saint-Bonnet, historien et juriste, et Stéphanie Annette Vaucher, professeur de droit public. Le poème Liberté de Paul Éluard avait été mis en musique pour un chœur par Francis Poulenc.
France Culture. Le temps du débat. Emmanuel Laurentin.
Un extrait du poème Liberté de Paul Éluard, mis en musique par Francis Poulenc, interprété ici par le chœur Ténébrae, dirigé par Nigel Short. Vous écoutez Le Temps du Débat. Nous débattons de la question des libertés publiques en ces temps à la fois de pandémie, mais également de retour du terrorisme. Vous disiez tout à l'heure, Peggy Havé, qu'il faudrait délibérer ensemble. Ça veut dire quoi, délibérer ensemble autour de ces questions de liberté? Est-ce qu'il faudrait justement faire en sorte que l'on reprenne la main, dans cet état d'exception dans lequel nous nous trouvons, eh bien, il n'y ait pas simplement, comme le disait tout à l'heure Stéphanie Hennette-Vaucher, l'exécutif qui décide, mais que nous, citoyens, mais de quelle manière pourrons-nous intervenir?
Oui, alors évidemment, c'est pas simple, mais c'est pas simple surtout quand on est dans un contexte où on se sent impuissant. C'est-à-dire, plus le sentiment d'impuissance est présent chez les citoyennes et les citoyens, moins on se sent capable de délibérer. Et ça passe par des choses d'abord très pratiques, hein, créer des espaces et des temps. Tout le temps qu'on passe qu'on consacre à cette peur, à cette culture de l'urgence, ne serait-ce que le temps d'attention. Si on le consacrait à des préoccupations de liberté, à un souci de liberté, ce serait déjà une chose importante. Notre attention est accaparée par les questions de sécurité et on a tendance à oublier les questions de liberté.
Oui, mais on peut dire, Stéphanie Hennette-Vaucher, qu'il faudrait pour cela qu'on soit d'accord pour pouvoir abandonner une partie de cette demande de protection que l'on a vis-à-vis de l'État pour pouvoir prendre un peu plus de risques. Il y a d'ailleurs des libéraux qui s'expriment dans les journaux comme le Figaro, récemment Christophe De Vogt et Fergan Hari, qui dit est-ce qu'on protège la vie en l'entravant? Mais il faudrait justement accepter de lever un peu de cette protection.
Oui, moi je suis prête à entendre que les individus sont prêts à renoncer à beaucoup de choses pour à beaucoup de liberté pour la sécurité. Moi, je ne sais pas si c'est véritablement mon rôle que de commenter cela. Ce qui me frappe vraiment, c'est que surtout, à mon sens, on ne doit pas accepter la même chose pour les autorités publiques ou pour l'État. C'est-à-dire que les individus, dans une période de crise, de peur, quelle qu'en soit la cause, soient prêts à renoncer à des libertés, c'est une chose. Mais je pense que ce qui est intéressant du point de vue de l'affirmation de la démocratie, de la préservation de la nature libérale de nos régimes politiques, c'est vraiment de ne pas tomber dans ce que Mireille Delmas-Marty appelait tout à l'heure la folie normative, ne pas vouloir répondre à tout problème par un changement législatif, puisque à chaque fois on nous dit qu'il faut un texte de plus, il faut donc un cran de plus dans la restriction aux libertés. Et je crois que c'est ça qui est véritablement problématique. C'est là-dessus qu'il faut qu'on mette le doigt pour affirmer que l'État ne doit pas répondre sans cesse par la restriction aux libertés à chaque difficulté et à chaque période de crise aussi dramatique soit-elle, qui advient.
François Saint-Bonnet, quand vous écriviez, c'était en avril, je crois, dans Le Monde, une tribune, c'était donc il y a déjà assez longtemps, à l'aune de ce que nous connaissons avec cette crise sanitaire, vous disiez en fait que la frontière entre normal et exceptionnel était déjà brouillée, elle s'est encore plus brouillée aujourd'hui, et d'une certaine façon, c'est ce brouillage qui nous met mal à l'aise et qui ne fait que nous n'avons plus totalement notre jugement pour savoir ce qui est normal, exceptionnel, et ce qui serait bon justement pour notre société, pour préserver les libertés.
Il y a un brouillage dans les mots, parce que dans les choses, il n'y a pas beaucoup de brouillage. En réalité, en matière sécuritaire, nous sommes dans un État qui est devenu un État normal, avec un niveau plus élevé de sécurité et un niveau moins élevé de préservation des libertés. On l'a vu en matière pénale, on l'a vu en matière de perquisition administrative ou encore de renseignement. Donc on a une politique publique sur le long terme de lutte contre le terrorisme qui n'est pas un état d'exception. Et d'ailleurs, l'état d'urgence sécuritaire, il a donné lieu à un grand nombre de mesures dans les 6 premières semaines, mais il a été maintenu pendant 2 ans. Et pendant tout le reste du temps, il y a très peu de mesures qui ont été adoptées. Et c'est, je reviens sur ce que je disais sur l'urgence, qui est à la fois quelque chose qui rassure et qui inquiète. Mmh. Et pour en avoir parlé avec un ancien garde des Sceaux, qui était aux affaires à ce moment-là, il me disait, en fait, l'état d'urgence, c'est un peu comme une drogue dure. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est dedans, c'est très difficile d'en sortir parce que les citoyens ne comprendraient pas et ils auraient le sentiment que on renonce, c'est-à-dire qu'on devient tout à fait impuissant. En réalité, ceci est tout à fait paradoxal parce que en réalité, quand on a voulu, par exemple, sortir de l'état d'urgence le 14 juillet 2016 au matin, où François Hollande a annoncé la sortie de l'état d'urgence, eh bien, le soir même, un attentat a été perpétré, celui de Nice, qui était absolument épouvantable. Et François Hollande a dit cette chose. Eh bien, nous allons proroger l'état d'urgence. C'est-à-dire que puisque l'état d'urgence n'avait pas fonctionné pour protéger les Français, eh bien, il fallait le maintenir en fonctionnement. On voit bien qu'il y a un paradoxe, il y a une difficulté. Il ne s'agit pas de critiquer François Hollande ici, parce que je n'aimerais pas être à sa place dans ce genre de circonstances. Mais si vous voulez, on voit bien la performativité du mot qui est censé agir à la place. Voilà. Et je crois que ce qu'il faut dire de manière tout à fait claire et simple, c'est que pour lutter contre le terrorisme, il faut plus des hommes que des normes. Et pour lutter contre l'état d'urgence, enfin plutôt contre la crise sanitaire, il vaut mieux des comportements prophylactiques des citoyens plutôt que des normes d'exception. Je rêve d'une société où effectivement, eh bien, chacun prendrait ses responsabilités avec civisme et bon sens et ferait très attention parce que effectivement, nous avons affaire à un virus qui est dangereux.
Peggy avait sur ces distinctions que fait François Sabonnet au regard de la philosophe que vous êtes, justement entre deux types de dangers, un danger sanitaire d'un côté et un danger sécuritaire lié au terrorisme de l'autre. Qu'est-ce que vous pouvez dire justement avec la longue durée qui caractérise vos propres travaux sur l'envers de la liberté tel que vous l'avez appelé?
Oui, je partage aussi cette distinction. Après, quand on parle de culture de la sécurité, j'insiste sur le fait qu'en fait, on ne se sent pas en sécurité, et pas simplement face à la maladie, enfin à l'épidémie, ni même face au terrorisme. On ne se sent pas en sécurité tout court face aux gestes de répression, à cette ambiance de contention permanente et de restriction des libertés. On se sent exposé à une insécurité. Donc en fait, quand on parle de l'état sécuritaire, c'est un état qui revendique la sécurité comme une justification à certaines restrictions, mais on ne se sent pas en sécurité.
Mais on est soi-même partagé en tant que citoyen. On est soi-même, un jour nous demandons plus de sécurité, le lendemain nous demandons plus de liberté, on veut bien continuer à accéder aux terrasses des cafés et à être très serré sur ces terrasses des cafés et des restaurants, et en même temps, on se dit, eh bien, on aimerait bien être plus protégé contre ce virus qui nous met en danger. Donc il y a tout de même cette ambiguïté en chacun d'entre nous.
Tout à fait, il y a une ambiguïté, il y a ce besoin de contention qui parfois prend la place d'un désir de liberté réel, c'est-à-dire notre désir d'émancipation. Quand on parle de servitude volontaire, ça n'est pas une servitude volontaire, c'est-à-dire elle n'est pas consciente et elle n'est pas voulue. On ne dit pas « je vais sacrifier ma liberté ». Simplement, c'est psychologiquement, enfin en psychologie sociale, on voit ce type de phénomène. Le besoin de contention vient apaiser et rassurer une peur et prendre la place du désir de liberté qui lui demande une prise de risque, toujours. Et il demande de choisir, de renoncer à une part de contrôle au nom d'une liberté plus grande.
En tant que professeur de droit public, Stéphanie Hennette-Vaucher, vous avez réfléchi justement à ce que décrivait il y a un instant François Saint-Bonnet, ce recul progressif des libertés. Claire Hédon, dans cette tribune que je citais dans Le Monde hier, défenseur des droits, disait en fait voilà des années que des libertés considérées jusque-là comme fondamentales et garanties par la Constitution et par la Convention européenne des droits de l'homme s'éclipsent tour à tour, réduites au mieux à un supplément d'âme dont une démocratie pourrait se parer. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée-là? Et surtout, comment fait-on pour que ce désir, disons, de protection qu'on décrivait, d'autocontrôle, qui a été décrit à l'instant même par Peggy Havé, ne finisse au bout du compte par faire disparaître une à une toutes ces libertés? On voit bien effectivement ce que vous avez dit sur la liberté de manifester en temps de Covid, mais il y a aussi la liberté de réunion, la liberté d'association même, puisqu'on va dissoudre des associations aussi après l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine.
Absolument, toutes ces libertés, liberté d'aller et venir, évidemment. Hein, on en a tous expérimenté la restriction absolue et avec le confinement.
Et ça va peut-être recommencer.
Et ça va peut-être revenir. Effectivement, liberté d'association, liberté d'expression, toutes ces libertés, liberté de manifestation sont menacées de manière assez inédite depuis plusieurs années. Et ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il est particulièrement ironique que tout ceci est opéré finalement au moment où le législateur a commencé à changer un peu le sens des mots. François Saint-Bonnet et Peggy avaient remonté tout à l'heure à la généalogie du XVIIIe siècle où était consacré le droit à la sûreté, la protection du citoyen contre l'arbitraire, contre l'arrestation et la détention arbitraire, le habeas corpus d'une certaine manière. Et depuis les années 90, bon, je vais évidemment très vite dans le temps, mais ce qui est frappant, c'est que depuis les années 90, on parle plus du tout de sûreté, on parle de droit à la sécurité. On a fait croire aux individus qu'on avait consacré un droit à la sécurité, alors que, si j'en crois les personnes avec lesquelles je discute à l'instant et je partage leur vue sur ce point, en réalité, on s'est jamais aussi peu senti en sécurité. Donc il y a eu quelque chose comme un piège à consacrer un droit à la sécurité, à changer un peu le sens des mots, parce que, en fait, le droit à la sécurité est nécessairement illusoire. Personne, aucun gouvernement ne pourra jamais nous garantir la sécurité absolue. Et surtout, ce droit à la sécurité a été proclamé sous un prisme très étroit des politiques sécuritaires auxquelles il était fait référence, et très rarement ou très marginalement sous l'angle de la sécurité matérielle. Voilà. Et donc, voilà, il y a une profonde ironie d'une forme de convergence entre l'affirmation d'un droit à la sécurité et en réalité une période où on a un tournant extrêmement sécuritaire, extrêmement restrictif sur les libertés.
Et pourtant, François Saint-Bonnet, on ne voit pas descendre dans la rue des milliers et des milliers de manifestants pour protester contre cette réduction de liberté que vous décrivez les uns et les unes dans cette émission et qu'on peut lire à longueur de tribune dans la presse. En fait, il y a comme une acceptation de cette réduction des libertés. Qu'est-ce qui explique cela, selon vous ?
Toujours pour la même raison, c'est parce que le mot urgence a cette ambivalence. Je crois que, en fait, nous ne sommes pas ni en état d'urgence sanitaire, ni en état d'urgence sécuritaire. Nous sommes confrontés à des difficultés, une difficulté épidémique qui nécessite d'organiser ses comportements sociaux un petit peu différemment et puis d'organiser aussi le système sanitaire de manière différente. Mais il n'y a pas d'urgence particulière, les choses durent. On doit gouverner effectivement un petit peu dans l'incertitude, accepter aussi de ne pas savoir. Tout ça est assez compliqué, mais je ne vois pas de système ou de mécanisme d'urgence qui soit à l'œuvre.
Vous voulez dire qu'on pourrait faire autrement ? Nos gouvernants pourraient faire autrement et qu'au bout du compte, avec des législations normales, classiques, on n'aurait pas besoin de faire appel à des législations d'exception ?
Mais quand on regarde les pouvoirs des maires dans la législation du 19e siècle en particulier, on voit qu'ils peuvent prendre des mesures assez restrictives en matière épidémique ou d'épizootie, qui sont considérées comme des mesures rares, mais jamais on ne connote ça avec l'état d'exception, alors que les états d'exception sont extrêmement nombreux à cette époque-là, qui est une période de révolution et de contre-révolution très nombreuse. Donc, c'est pas simplement parce que on se dit qu'il s'agit de quelque chose de rare, d'irrégulier, mais qui n'a rien d'exceptionnel. Et que dans ces situations-là, eh bien, il faut prendre les mesures qui sont les mesures idoines. Mais je prendrai le même exemple s'agissant du terrorisme. On sait à peu près faire, simplement il y a des trous dans la raquette, mais globalement on sait à peu près faire, en particulier grâce aux renseignements. Donc on est dans une politique publique de long terme, mais on n'est pas dans l'urgence. Et d'ailleurs la meilleure preuve, c'est que l'état d'urgence sécuritaire est devenu, alors on peut le critiquer, je suis de ceux qui le critiquent, cette loi SILT du 30 octobre 2017, tout simplement parce qu'il me semble que ce ne sont pas les mesures qui sont adaptées pour faire face au terrorisme. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas du tout dans quelque chose qui relève de l'urgence. Donc il faut arriver, je crois, collectivement, et je parle en présence d'une philosophe, à essayer de se déstresser par rapport à tout ça, essayer d'avoir une approche rationnelle. Le fait d'avoir des attentats qui tuent une, deux, trois, quatre personnes sont des choses épouvantables. Personnellement, c'est épouvantable aussi pour toute la nation, mais il faut aussi dire ceci, c'est que c'est un petit nombre de personnes, qu'on le veuille ou non. Le dire comme ça n'est pas être insensible, mais il faut aussi raison garder quand une personne ou deux personnes sont tuées de manière aussi abjecte. Ça n'est pas toute la nation qui est en train de verser. Les frontières ne sont pas menacées, les institutions ne sont pas renversées. Vous voyez ce que je veux dire?
Justement, sur ce point, Peggy avait la même question que j'ai posée à la fois à François Saint-Bonnet et à Stéphanie Hennette Vaucher. Il n'y a pas des milliers de personnes qui descendent dans la rue en disant arrêtez de nous protéger, ou au contraire soyons plus libres. Ça ne vous étonne ou ça ne vous étonne pas en tant que philosophe, justement, qu'il y ait ce consentement, vous qui avez travaillé sur cette question de la servitude volontaire?
Oui, ce qui m'inquiète par rapport à votre question de est-ce que nos libertés sont en danger, alors elles le sont toujours, puisque les libertés par principe sont toujours exposées à des abus de pouvoir, donc il faut toujours des contre-pouvoirs et donc il faut toujours une sensibilité, une vigilance critique à la défense et à la protection des libertés. Mais ce qui là, à mon avis, dure et dépasse le cadre strict d'une épidémie ou d'un acte terroriste, c'est une représentation qu'on a d'une histoire qui est en déclin, qui va d'une histoire en crise. Et ça, c'était Merleau-Ponty qui disait « les tyrans aiment les passions tristes ». Pourquoi ? Parce que tant que nous sommes complètement absorbés, tant que nos désirs d'émancipation sont absorbés par la tristesse et l'anxiété, c'est difficile de récupérer une puissance d'action. Enfin, pour descendre dans la rue, pour vraiment faire opposition, pour délibérer, pour résister, il faut vraiment lutter contre ce sentiment d'impuissance. Et il me semble qu'un des éléments qui peut nous aider, c'est de comprendre ça, c'est de prendre le recul, de resituer ce que nous vivons maintenant sur une histoire qui date du début du XXe siècle, où on est passé d'une vision de l'histoire comme progrès à une vision d'une histoire catastrophiste, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui.
Bien sûr.
Et donc, si on resitue le dernier siècle dans l'histoire des idées, on peut comprendre qu'en fait, ce que nous vivons ne date pas d'aujourd'hui, et donc ça permet de prendre du recul par rapport à l'urgence, entre guillemets, justement.
Merci à tous les trois. Merci à vous, Peggy Havet. Je rappelle que vous êtes autrice aux publications de la Sorbonne de votre thèse qui s'intitulait « L'envers de la liberté, une approche historique et dialectique ». Avec nous également François Saint-Bonnet, qui était auteur de « L'état d'exception et de l'épreuve du terrorisme, les pouvoirs de l'État », et Stéphanie Hennette Vaucher, professeure de droit public à Nanterre, qui a dirigé avec un collectif qui s'intitulait « Ce qui restera toujours de l'urgence » aux éditions LGDJ en 2018. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Mathilde Tonfourcade, Rémi Baye, Hugo Boursier et Imane Gilles. Merci à nos amis de France Bleu Armorique, en particulier au technicien Ferdinand Prévost, qui ont accueilli en leur studio François Saint-Bonnet, à la technique ici à Paris Audrey Guélil, à la réalisation Alexandre Manzanares. Dans le temps du débat demain, alors que la situation économique se dégrade et va continuer à se dégrader, faut-il taxer les riches? C'est la question que nous poserons. Dans 3 minutes, vous retrouverez Lucille Como pour Affaires culturelles ce soir en compagnie de la chanteuse Barbara Carlotti. Vous écoutez France Culture, il est 19h. Les titres de l'actualité sont présentés par Marie-Hélène Dubigno. Bonsoir Marie-Hélène.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous.